C'est simple. Si tu veux éviter les épiceries présentement, ben Chef Maison, c'est la solution. Au 438-872-9500, tu peux le rejoindre aussi sur sa page Facebook, Info Chef Maison. Puis oublie pas, le forfait familial, 5 jours à 75$. Chef Maison, la solution. Hey, vous êtes là, bienvenue dans la jasette du barbu numéro 101. J'ai une couple de sujets pour toi. Je commence ça tout de suite avec le UFC qu'on a eu hier soir, qui mettait en vedette en finale Cyril Gane. Et je te parlerai pas de ce combat-là pour commencer, je vais te parler du combat de la soirée, qui est celui de Pedro Munhoz contre Jimmy Rivera. Ces deux-là s'étaient affrontés il y a 6 ans. Ils se sont réaffrontés hier soir dans le combat de la soirée. Ces deux-là, t'es mis ensemble, ça va toujours donner ce genre de combat-là. Un combat de 3 rondes que Munhoz a gagné cette fois par décision unanime. Même si c'est une décision unanime, ça demeure tout un combat. Je me demande bien comment ça se fait que Rivera est resté debout. Il a une superbe mâchoire et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il doit avoir mal au mollet. Puis hier, Michael Bisping en parlait avec les autres co-animateurs. Il parlait de ce coup qui est à la mode au UFC, de donner des coups de pied au mollet. Et puis ce que ça fait, c'est... Ça va dans les fibres du mollet, puis à un moment donné, après plusieurs coups, ben tu tombes sans même vouloir tomber, puis tu peux plus continuer le combat. Il parlait même de bannir ces coups-là, parce que beaucoup s'en servent maintenant. Bonne réflexion. En même temps, je suis un peu d'accord avec... Oui, ça fait partie du combat, mais là, mais comme lui disait, là, on découvre un point faible au niveau du corps... Là, les combattants sont pas fous, là, c'est des étudiants de la game. Mais il y en a plusieurs qui font juste ça, là, donner des coups. Là, ça va-tu devenir The Ultimate Fighting Mollet, tu sais? Ça va-tu devenir un concours de celui qui est mollet les plus solides? Donc, je mets la réflexion. Donc, Pedro Munhoz a beaucoup frappé les mollets de Jimmy Rivera. Mais il n'y a pas juste ça, là. Il y avait des bons coups à la tête aussi. Il y avait des bonnes combinaisons. Ça a été... un beau combat du début à la fin, là, ça a été non-stop. Mais une chose est sûre, ce combat-là était meilleur que la finale. La finale, quelle déception de Cyril Gane qui a gagné ce combat-là par décision endormante après 5 rondes. Hey, 5 rondes, c'était long et ennuyeux, mes amis. Il affrontait évidemment là, Rosenstruck. Rosenstruck, regarde... Il avançait pas, il faisait rien. Ben c'est sûr que moi, en tant que gérant d'estrade, tu sais, c'est facile de dire ça. Là. C'est pas moi qui étais dans le cage avec Cyril Gane. Mais les gars, au UFC, au MMA, il s'agit pas juste de gagner des combats. T'sais. Si tu veux devenir populaire, si tu veux faire de l'argent, si tu veux faire les finales des grosses cartes, il faut qu'en quelque part tu sois spectaculaire. Il faut que tes combats soient intéressants. Et puis, c'est ce que Dana White disait hier après le combat. Je pense qu'on va être un bout sans voir Cyril Gane, même s'il n'y a aucune défaite. On va être un bout sans le voir faire des finales. Pareil comme Rosenstruck. Là. Lui aussi, il va falloir qu'il retourne sur le... Va falloir qu'il retourne sur le tableau, là, puis commence à retravailler ses choses. Là. C'est comme s'il ne voulait pas engager hier. Là. On ne peut pas se permettre d'avoir des combats ennuyants comme ça en finale d'un gala. C'est impossible. puis le UFC en est très conscient, pareil comme les autres organisations d'MMA. C'est ce qui fait la force du MMA si on compare à la boxe. Souvent, la boxe, on peut avoir des combattants très, très ennuyants qui ont des fiches merveilleuses, là, qui font juste se protéger et puis qui n'engagent pas le combat. Ça arrive régulièrement. Puis c'est ça qui a tué la boxe, à mon avis. La boxe a pu toute la fame, toute la qu'elle avait avant, là. Mais vraiment pas, là. Je veux dire, la boxe... on n'est plus dans l'âge d'or de la boxe, là. Vraiment pas. Puis je pense que c'est ça qui l'a tué. C'est des combats ennuyants et endormants possibles. Comme le combat de Cyril Gane hier avec Rozenstruik. C'est la même chose, là. Ça a été vraiment horrible comme prestation. Mais sinon, c'est grosso modo, c'est un bon gala. Mais je retiens là, le combat de la soirée de Pedro Munhoz. J'aime beaucoup ce gars-là, puis j'y souhaite tellement... Il est d'un bantamweight, évidemment, là. J'y souhaite tellement d'avoir une chance au titre. Ce gars-là mérite tous les combats qu'il va avoir pour lui. C'est vraiment un combattant d'exception. Un gars qui pourrait remporter le titre, mais il est pas loin, là. On parle de millimètres, là. Et puis j'ai beaucoup aimé Jimmy Rivera hier, qui est baqué, hein, qui a l'air d'une petite boîte de tête, là. Je l'aime beaucoup, lui aussi. Mais le gars qui devait gagner a gagné ce combat-là. Donc c'est pas mal ce que j'ai vu hier au UFC. Par la suite, qu'est-ce que j'avais pour toi? Ah oui! Je vais te parler un peu du CF Montréal. On a vu cette semaine que Thierry Henry a abandonné son poste d'entraîneur pour raison familiale. On peut pas y en vouloir, évidemment. On sait que la saison dernière a été très difficile pour le CF Montréal, qui est à l'époque l'Impact, qui ont passé l'année à l'extérieur, à jouer à New York, qui n'était pas en ville, qui n'était pas à Montréal, qui n'était pas avec leur famille. Puis lui, sa famille... Henry est en Angleterre. Donc, ça a été une année vraiment difficile pour lui. Puis, je peux comprendre son choix. Là, j'ai rien contre ça, que prime abord. Je suis qui pour dire que je suis contre ça, t'sais? Pas juste le sport dans la vie, là. T'sais, c'est des choix, à un moment donné, que tu fais, là. Puis, tu sais, je suis bien d'accord avec ça, là. Mais ça me démontre une chose du CF Montréal. Appelle-les le CF Montréal, l'Impact, le 11 Montréalais, comme tu veux, là. Cette équipe-là prend des mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions. C'est une équipe difficile à aimer. Moi, je suis pas un grand fan de soccer, OK? Ou de foot. Mais vraiment pas. Bon, je respecte le sport dans le sens que moi, c'est pas mon sport préféré, mais c'est un sport qui mondialement est probablement le préféré de tous. Là, je veux dire, c'est le sport numéro un au monde. Beaucoup de respect pour ça. Moi, c'est pas le mien. Mais je respecte le sport quand même, là, tu sais. Faudrait être niaiseux pour pas le respecter, là. Mais moi, je voulais être fan du CF Montréal, encourager l'équipe de ma ville, tu sais. J'avais ce désir-là. J'étais quelques fois au Saputo, puis j'ai bien aimé ça, aller au Saputo. Beau stade. Belle grosseur pour le genre d'équipe qu'on a. Parfait. Pour belle grosseur pour la MLS, là. J'aimais beaucoup la structure, comment ça a été fait. Tu vois qu'ils ont... tout l'argent qu'ils ont mis là-dessus, là, de la famille Saputo, ça a été calculé. Puis c'était bien fait. Les rangées étaient larges. Il y a beaucoup de toilettes un peu partout. C'est un beau stade bien fait, là. Un beau stade des années 2000. Tu sais, fin des années 2010, et etc. Mais c'est toujours mauvaise décision par mauvaise décision. Je m'explique. Bon, t'engages Thierry Henry. À un moment donné, t'engages Rémi Garde. Oui, t'engages Rémi Garde, mais il donne pas les outils. Ça donne quoi d'engager un entraîneur vedette si t'as pas d'outils? On peut-tu mettre des gars sur le terrain, mettre notre argent sur la relève? Moi, j'ai toujours dit que le CF Montréal devrait... ce qui serait primordial pour nous, comme à l'époque des Expos, je parle d'une petite... une petite franchise, là, pas une grosse franchise, le CF Montréal, là, c'est pas comme les Red Bull... à New York ou le Galaxy à Los Angeles, là, on n'a pas les poches creuses. Donc, un petit marché comme Montréal pour la MLS. Moi, je pense qu'on devrait faire comme à l'époque les expos, se concentrer sur le repêchage, sur les prospects, se concentrer sur les jeunes joueurs. Donc, ça prendrait ce que ça prendrait, c'est des bons dépisteurs. Je crois, c'est mon deux cents à moi, là. Moi, je verrais bien là, qu'on ait des bons dépisteurs. Là. Allons chercher les meilleurs dépisteurs possibles sur la planète, puis allons dépister la planète au complet. Comme le fait à l'époque Atlanta, qui avait des jeunes joueurs là, qui étaient incroyables, des jeunes qui éventuellement étaient pour aller jouer dans les grosses ligues en Europe, mais bon, pour le temps qu'ils étaient là, ils étaient là, tu comprends? Donc, ça c'est une chose. L'autre chose, regarde, pour te dire comment que CF Montréal fait des drôles de choses, le retour de Laurent Simant qui revient vivre à Montréal, Laurent Simant qui... Montréal a aimé Laurent Simant, c'est un geste important son retour. Tu décides de l'annoncer la journée que le Canadien claire son entraîneur en chef, Claude Julien. T'es-tu capable d'attendre 2-3 jours, de laisser tomber la poussière? Puis après ça, t'aurais eu toutes les médias pour toi, puis t'aurais pu faire une belle annonce, annoncer ça partout, le retour de Laurent Simant. Mais bref, content quand même du retour de Laurent Simant, mais cette équipe-là, c'est ça, c'est... Impact au CF Montréal, là, c'est mauvaise décision par-dessus. Mauvaise décision, puis c'est triste. Pis ça, c'est quand même un beau sport, puis j'aimerais ça les aimer. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui arrive. Hey, j'ai découvert, imagine-toi donc, j'ai fait une découverte un matin, dimanche, sur mon Twitter. J'ai découvert que dans ceux qui me suivent, il y a des flat earthers. Ça, je sais pas c'est quoi l'expression flat earther. C'est des gens qui pensent que la Terre est plate. Ouais. Eux autres sont convaincus, imagine-toi donc, en 2021, que la Terre est plate. On va s'entendre, ça fait longtemps qu'on a découvert qu'elle ne l'était pas. Alors, on peut demander à Galilée. T'sais, ça remonte à l'époque de Léonard de Vinci. Là. Ça fait un crise de bout. Là. Mais il y a encore du monde en 2021 qui pense qu'on n'a pas été sur la Lune. Et puis, que la Terre est plate. Puis, ce que j'ai remarqué avec la pandémie, c'est que les complotistes, ben il y en a plus qu'il y en avait. Puis pour moi, si t'es un flat earther, ben tu fais partie de cette secte-là que j'appelle les complotistes. Là. Les théories du complot ont toujours existé. Mais on dirait qu'avec la pandémie, ça l'a... c'est 10 fois pire. Ça... Les gens, on dirait qu'ils ont rien à faire. Fait que là, ils se mettent à penser, puis à trop penser. Puis c'est juste... c'est pas un complot, c'est pas un reset. On y a beaucoup... on est des milliards sur la planète. Puis à un moment donné, c'était pour faire ça. Je veux dire, c'est juste dans la logique des choses. Puis on est d'une pandémie mondiale. Puis c'est pas la première fois. Il y a eu la peste noire, il y a eu la grippe espagnole. Il y en a eu plein de pandémies à travers l'histoire. Puis nous, on n'est pas différent d'il y a 100 ans. Là, ça peut arriver des pandémies. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Mais là, on le vit, tu sais, présentement. Bon, on le vit, c'est très... ben, c'est ça. Ça l'amène, ce genre de théorie-là, à force... Ben, ça fait un an, là, déjà, qu'on est en pandémie. Ben, ça amène ce genre de théorie-là. Des gens qui, on dirait, pour se... je ne sais pas, pour se rassurer, par, je sais pas, qui ont peur, qui ça leur fait du bien, probablement, de s'imaginer des théories, j'ai l'impression, tu sais. Chacun vit, ça, c'est intéressant à ce niveau-là, chacun vit sa pandémie comme il peut, tu sais. Puis moi, je suis pas là pour juger ça. Mais je me demande, tu sais, souvent, les gens qui vont partir ces théories-là, c'est des gars qui sont dans le sous-sol, en arrière de leur clavier. Quand t'as fait tes recherches sur Google, ben c'est parce que tu t'es pas déplacé et tu l'as pas vu de tes yeux vus. Je veux dire, c'est correct. Là. Moi aussi, je peux en partir un paquet de théories, mais je sais pas. Pour moi, ça demande de la science-fiction. Et puis, c'est rien de concret. Puis, je pense que les gens, certaines personnes ont besoin de ça pour oublier la triste réalité. L'impression que peut-être qu'elle est trop dure pour elle. Là, pendant cette pandémie-là, il y a des gens, les gens là, qui restaient toujours à la maison, qui sortaient jamais. Ces gens-là, là, ils s'en foutent carrément de la pandémie parce qu'ils vivent comme ils vivaient avant. Je veux dire, quelqu'un qui allait pas au cinéma, qui allait pas au restaurant, qui était tout le temps enfermé chez eux, ben il s'en fout de la pandémie pour lui, ça n'a rien changé. regarde, moi, de mon côté, ça a changé un paquet d'affaires. Je peux pas faire le spectacle. Je suis quelqu'un qui aime ça aller au restaurant. Je suis quelqu'un qui aime ça aller au cinéma. Ben oui, pour moi, ça a changé un paquet d'affaires, tu sais, puis j'ai hâte de revenir avant. Évidemment, bon, ben, ça prendra le temps que ça prendra. Mais, non, c'est ça. J'ai beaucoup observé ça depuis un certain temps, que les complotistes, c'est de plus en plus gros. Bon, on a eu un moment donné avec Donald Trump, la folie d'Alexis Cossette, là. Là, ça s'est comme modéré, puis c'est tant mieux. Toutes ces théories-là, j'embarque pas là-dedans, je suis pas vraiment ça, là. C'est juste que ça m'a frappé, un de mes... un gars qui me suit sur Twitter, je sais pas, il me semblait bien sympathique, puis tout ça, mais là, j'y vais un matin dans son fil à lui de discussion, des grosses discussions sur le fait que la Terre était plate, puis tout ça, j'en revenais pas, puis... Ça m'a assommé quelqu'un qui est flatteur. Comment il peut me suivre? Comment il peut aimer ce que je fais? Je sais pas. Je comprends pas le lien entre les deux. Ben regarde, on peut aimer toutes sortes de choses dans la vie, là. Mais bon, bref. C'est ça, ça m'amusait de voir ça. Une autre chose que j'ai vue sur Twitter ce matin, j'aime bien ça le matin faire mon petit tour sur Twitter. J'ai vu via le compte d'un gars qui se fait longtemps, je suis. Un gars du lac qui s'appelle du lac Saint-Jean qui s'appelle Éric Paulin. Si tu es sur Twitter, tu connais Éric Paulin, c'est clair, là. Connu comme Barabas en passion. J'ai vu qu'il travaillait sur une nouvelle image, puis un beau site internet pour les gens du lac. Ça s'appelle le j'achèteaulac.ca qui encourage l'achat local. Je trouve ça génial, puis ça me surprend pas des Beluets. Non. C'est des gens très intelligents, puis c'est des gens qui ont toujours été communautaires. En tout cas, moi, c'est toujours l'impression qu'ils m'ont donné. Donc, ça me surprend pas de voir que se sont créés un beau site internet, j'achèteaulac.ca. Je trouve ça... je sais pas. Je pense qu'on devrait tout faire ça, tu sais, dans nos régions. Nous, dans Laurent, moi, je suis dans Laurentides, dans la Nodière, dans Kamouraska, un peu partout, là. Je pense que... C'est très, très intelligent, puis je pense qu'on devrait s'encourager mutuellement. Moi, en tout cas, j'ai le désir de le faire de plus en plus. Moi, encourager tout ce qui arrive de la Chine, rien contre les Chinois, mais je pense pas que c'est bon pour nous autres d'encourager ce qui arrive de ces usines-là. On le fait beaucoup trop. Ça changera pas demain matin, là, c'est clair. Mais j'aime beaucoup l'idée de ces gens, de ces bleuets-là du lac Saint-Jean. Excusez-moi. Donc, j'achète au lac.ca. Quelle belle idée. Hey, je vais te faire une suggestion de podcast avant de te quitter, avant de terminer cette jasette du barbu numéro 101. Je te suggère un podcast que je viens de découvrir. Ça fait quand même assez longtemps qu'il est là. Il y a beaucoup d'épisodes. C'est le podcast de Marc Boilard. Marc Boilard, tu te souviendras de lui, il y avait une application un peu comme Tinder à l'époque, lui, là, pour les gens célibataires. Monclasseur.ca, je crois, ouais, c'est ça. Lui, il avait ça. Puis c'est un gars qui était animateur à la radio, à la télé. Il a fait partie de Testostérone. Il a fait un one-man show qui a livré à peu près une centaine de fois en France, à Paris. Donc, c'est un gars qui a bourlingué pas mal partout. C'est un gars de médias, c'est clair, là, c'est un naturel. Son podcast, c'est des épisodes, c'est quotidien, c'est des épisodes d'environ entre 10 et 15 minutes, 15, entre 10 et 20 minutes, ok, juste pour être sûr. Et c'est très intéressant. Franchement, là, j'aime bien ça. C'est sûr qu'il y a une voix radiophonique, ben c'est intéressant, c'est bon. Sujet varié, en tout cas, moi, des sujets qui m'intéressent, je dirais une seule chose. À Marc Boilard, son logo d'angle mort est vraiment horrible. Mais à part de ça, le contenu, il y a 101 épisodes, tu vois. C'est fou, hein? Puis là, je te dis ça, puis je suis en train de faire la 101, moi. Ben intéressant, regarde, il parle, il parle du congédiement de Claude Julien, il parle du départ de Danny Turcotte, de Tout le monde en parle, il parle des cinémas, est-ce qu'ils vont s'en sortir, il parle de Mike Ward, de Big Brother. Il parle un peu de tout, de la culture québécoise en général, de ce qui se passe, des nouvelles. C'est d'actualité quand même, puis moi je trouve ça intéressant, fait que je te le suggère fortement. C'est nouveau pour moi, là. Je pense que j'ai écouté 3 épisodes, mais assez pour te dire que c'est intéressant. Et puis j'aime, j'aime sa façon de penser, j'aime sa façon de parler au micro aussi, bien, bien intéressant, relaxant même. Fait que moi, je suis devenu un fan, là, je vais me taper plusieurs épisodes, j'ai bien l'impression, là, de Angle Mort. Mis à part son logo, là, pour son logo de podcast, mis à part ça, c'est parfait. Hey, sur ça, gang, c'était ta Josette du Barbu numéro 101. Je vais te dire, comme je disais dans le temps que je faisais du CB à chute, puis que mon surnom, c'était Red Lobster. Ben, tu connais la ritournelle. Pouput! Ciao!